Bonjour à ceux qui nous rejoignent sur Internet et aussi à la radio. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, on va parler de choses un peu spéciales. C'est toujours un peu spécial, vous me direz. Hein. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que vous aimez bien venir sur Révélation Bible. Hein. C'est parce que c'est un peu spécial. Ah tiens, je retrouve une belle photo de Violette et Raphaël, Michou et moi dans ma Bible. Il faut dire que j'ai tellement de Bibles. De temps en temps, je prends une, de temps en temps, je prends l'autre. J'aime bien avoir plusieurs versions de la Bible. C'est vraiment nécessaire d'avoir plusieurs versions de la Bible, parce que comme ça, on se fait une meilleure idée de la pensée du Seigneur, parce que les traductions, ça varie un petit peu, parce que le français, les mots changent de valeur au cours des siècles, des décennies. Est-ce que vous avez remarqué que maintenant, sur Révélation Bible, on peut écouter nos chants? Hein? C'est grâce à notre frère Franck qui a pu enregistrer ça. Monsieur, il a fait comme il a pu. Évidemment, ce n'est pas professionnel, hein, ce n'est pas de la haute définition, machin, mais c'est quand même bien. Et puis, c'est Richie qui nous les a mis en ligne sur Internet. C'était du boulot, hein, mais il l'a fait et ça a marché. Alors que Dieu les bénisse tous les deux. C'est une bonne chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir et qui disent « Oh, vous n'avez pas un disque ?»« Non, on n'a pas de disque. »« Oh, mais on aimerait bien avoir vos chants et tout. » Et alors, on a eu l'idée, tiens, ben, puisqu'on les chante, on va les enregistrer et puis on va les mettre sur Internet. Que Dieu bénisse chaque personne qui les écoute. Actes chapitre 3, versets 19 à 21. On va lire la Bible. Actes des apôtres, chapitre 3, versets 19 à 21. Je fais la lecture. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Amen. Vous avez vu? C'est écrit, c'est des longues phrases avec des tas de virgules. Mais il nous dit que le ciel a reçu Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ est parti dans l'ascension. Hein, ça, on a fêté ça quand ? Hier, l'ascension de Jésus-Christ. Le ciel a reçu Jésus-Christ jusqu'au rétablissement de toutes choses. C'est-à-dire quand tout sera véritablement rétabli, Jésus reviendra. Et j'ai sur le cœur de vous parler de ce que la Bible dit justement de notre époque et de ce que la Bible annonce au sujet de notre avenir proche. On est entré dans l'âge de la bonne nouvelle qui est enfin annoncée au monde entier. C'est même dans les pays où on n'a pas le droit d'aller prêcher parce qu'ils sont des pays réfractaires, ils n'aiment pas l'évangile de Jésus-Christ, c'est des pays totalitaires, enfin, où il y a des religions très dures, où une politique implacable, ils ne veulent pas de la bonne nouvelle de Jésus, et bien on entre quand même grâce à Internet, c'est formidable. Et ça, c'est ton travail, Richie. Que Dieu te bénisse pour ça. On va partout, on prêche l'Évangile dans le monde entier. On entre partout. Gloire à Dieu. Et nous sommes à l'époque glorieuse dont nous parle l'apôtre Paul. Jésus descendra du ciel au son de la trompette de Dieu. Et les morts en Christ, c'est-à-dire tous les chrétiens qui auront été vainqueurs depuis 2000 ans en arrière, ceux qui auront été vainqueurs dans leur temps, ceux qui auront marché correctement dans leur époque, eh bien, ils ressusciteront premièrement. Ensuite, l'apôtre Paul dit, nous les vivants, nous serons enlevés avec les ressuscités et nous partirons ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voilà ce que l'apôtre Paul enseignait. Et je sais qu'il y a des théologiens aujourd'hui qui n'y croient pas. Tant pis pour eux, moi je crois ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul était un homme qui était exaucé par Dieu. Quand il priait, il y avait des guérisons, il y avait des miracles, il y avait des délivrances. Messieurs les théologiens, où sont les preuves que vous êtes approuvés par Dieu dans vos doctrines? Dans Marc, il est dit que Jésus confirmait ce que les apôtres prêchaient en faisant des miracles et des guérisons. Alors moi, j'écoute un homme qui avait des guérisons, qui avait des miracles, que Dieu exauçait en son temps. Pas vous, messieurs les théologiens. Non, vous êtes une bande d'incrédules pour la plupart. Je ne vous écoute pas. Il y en a, j'en connais. Je connais des théologiens formidables. Il y en a des formidables. Mais en grande majorité, il faut dire, ça ne vaut pas bien, il hein, faut le dire. Bon, enfin, les pasteurs aussi, ça ne vaut pas bien non plus. Les évangélistes non plus, les prophètes, alors là encore moins. Enfin bon, On est dans une drôle d'époque quand même. Mais moi, je crois ce que l'apôtre Paul. Et puis il dit ensuite, suite à cela, il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mes frères et sœurs, c'est une grande consolation de savoir que dans sa dernière étape sur cette terre, les vainqueurs dans l'Église vont voir toutes ces choses s'accomplir. Qu'est-ce qu'on va voir ? Les vierges sages iront à la rencontre du Seigneur dans le ciel, c'est-à-dire les véritables croyants, les véritables chrétiens. Et nous verrons finalement, enfin, notre époux face à face, celui que nous prions, celui que nous aimons. Cette nuit, on s'est levé à 3 heures du matin pour prier, c'était la nouvelle lune. On a prié, on a repoussé nos ennemis derrière nos portes, partout dans le château, toutes les petites les chambres s'allumaient, les petites lumières partout. Et nous étions en train de prier pour vous qui écoutez là, pour vous. Nous étions en train de prier pour le gouvernement, pour les églises, pour les frères et sœurs persécutés dans le monde. Il y a des luttes, des combats. Et un jour, ce Seigneur que nous aimons et que nous prions, eh bien on le verra face à face. Avant cet enlèvement miraculeux, la Bible prophétise que la connaissance augmentera. Il est aussi annoncé que les gens, à cette époque-là, courront de ci et là par toute la terre. C'est une chose impensable à l'époque. Hein. Maintenant, il y a les avions, il y a les bateaux, il y a les trains, il y a les bus, il y a tout ce que vous voulez, on court partout. Et que ce serait un temps quand même de détresse pour les nations, c'est-à-dire une crise. Il y aura une crise, un temps de détresse. Les nations, surtout nos nations dites civilisées, qui ont reçu tant de la part de Dieu au travers des religions judéo-chrétiennes, c'est-à-dire de l'enseignement judéo-chrétien qui a formé dans nos pays un certain caractère, qui a fait que nous sommes devenus ce que nous sommes devenus, plutôt que d'être restés assis les bras croisés en attendant que ça tombe, parce qu'il y a beaucoup de pays où la religion rend les gens, comment on appelle ça, ils attendent passifs, voilà, ils attendent, c'est fataliste, nous non, la vérité nous a rendus battants, gagnants, actifs. Et alors, ces nations qui ont été influencées par cet enseignement judéo-chrétien, eh bien, elles vont souffrir parce qu'elles n'ont pas su être reconnaissantes. Elles n'ont pas été reconnaissantes à Dieu. Elles ont chassé Dieu des écoles, elles ont forgé des armes pour conquérir le monde par la force, au lieu d'aimer, ils ont été conquérir par la force. Mes frères et sœurs, il y a quelques personnes qui ont apprécié les bienfaits de Dieu. Et Daniel, il parlait déjà de ça dans la Bible, vous trouvez ça dans Daniel 12, il disait « Ceux qui auront l'intelligence par le moyen de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de révélation, ceux-là comprendront, mais les autres, aucun méchant ne comprendra. » Ils comprendront rien. Ils verront, mais ils ne comprendront pas ce qui se passe. Ils diront « Mais non, blablabla, blablabla. » Voilà, c'est tout. Nous, on sait ce qu'on croit et on enseigne avec fermeté ces choses-là. Mes frères et sœurs, c'est le temps où les nations doivent rendre compte à Dieu. Mais pas seulement les nations, avec leur foule d'incrédules. Pas seulement les nations, mais aussi l'Église. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre 4, 17, que le jugement commencera par la maison de Dieu. Et mes frères et sœurs, on est en plein dedans. Frères et sœurs, on a un immense privilège, c'est de vivre dans cette époque. C'est un privilège fantastique, c'est aussi une responsabilité et c'est aussi un privilège de savoir que nous sommes dans une période dont la Bible parle. La Bible, ce n'est pas simplement un message qui raconte des histoires d'il y a 2000 ans. La Bible, c'est un livre qui nous parle de ce qui se passe aujourd'hui. Frères et sœurs, on peut se situer dans l'histoire du monde grâce à la Bible. On peut se situer dans l'histoire de l'Église dans la Bible. Et mes frères et sœurs, nous sommes en train de vivre les prémices du grand repas des noces de l'agneau parce que nous avons ici-bas une nourriture céleste, une nourriture magnifique, la parole de Dieu, la Bible. C'est une nourriture. C'est les prémices de ce que nous aurons plus tard. À la communauté du Château Sanctuary, je pense que vous l'avez compris maintenant, vous qui nous écoutez, on croit que l'ange de la Odyssée, c'est-à-dire le messager, le mot ange, ça signifie messager, nous croyons que c'était William Branham. Mais en fait, mes frères et sœurs, peu importe que ce soit lui, Il faut le dire, peu importe que ce soit lui. On croit que c'est lui, voilà. Mais peu importe, parce qu'en réalité, c'est Jésus-Christ lui-même qui dirige toute chose. C'est Jésus-Christ lui-même qui conduit son Église, c'est Jésus-Christ qui mène le monde. Tout ça, c'est Jésus-Christ qui tient, il tient tout ça dans sa main. William Branham, c'était un homme, il est né le 6 avril 1909, il est retourné vers le Seigneur le 24 décembre 1965 à 16h49. C'était un prophète de Dieu, c'était magnifique, c'est formidable. Tout au long de son ministère, il a parlé presque continuellement du rétablissement de toutes choses. Tout ça s'est annoncé, on l'a lu tout à l'heure, le rétablissement de toutes choses. Il a parlé principalement de ça, il s'est surtout attaqué à la doctrine des trinitaires. Et de tout temps, dans l'Église, il y a eu des gens pour annoncer le retour de Jésus. Si bien que quand lui il est arrivé en disant qu'il était le précurseur de la venue de Jésus, comme Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue de Jésus, tout le monde a dit « ah 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 ». Ils n'ont pas cru. Mais jamais les gens ont cru, les serviteurs de Dieu envoyés. Jamais ils ont cru. Citez-moi un serviteur de Dieu qui était reconnu. Jamais. Même Jésus n'a pas été reçu, il n'a pas été reconnu. C'est comme ça. Alors par contre, pour les bêtises, alors là on est très forts, nous les humains. Par exemple, les adventistes, on peut aller chercher plus loin en arrière, mais les adventistes du septième jour, ils avaient annoncé qu'en 1844, Jésus allait revenir. Il n'est pas revenu. Après, vous avez les témoins de Jéhovah qui sont venus et puis qui ont dit qu'il reviendrait en 1874. Il n'est pas venu. Après, ils ont dit non, 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 c'est en 1914. Manque de peau, il n'est pas venu. Alors, il y en a qui ont dit non, non, non. Toujours les témoins de Jéhovah. C'est en 1918, toujours pas venu. Bref. Il y en a encore eu d'autres. Moi, je me rappelle, j'étais tout petit. Ça devait être en 57, 58, ou je ne sais plus combien exactement. On nous disait que c'était la fin du monde et pour être sauvé, il fallait aller sur le Mont Blanc. Le Mont Blanc, elle est très par nuit. Mais il y avait des gens qui allaient, hein, monsieur Infernal. Frères et sœurs, sommes-nous vraiment face au septième envoyé d'Apocalypse 3? Est-ce que vraiment c'est lui? On peut peut-être se tromper. On est peut-être trompé. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Frère Branham, est-il vraiment le dernier messager majeur pour l'Église des nations? Moi, je le crois. Mais tout n'est pas fini. Tout n'est pas encore rétabli. Tout n'est pas encore accompli. Il y a, mes frères et sœurs, un temps entre le moment où le messager se manifeste en chair et en os et le moment où Jésus revient pour chercher son Église. Il y a 45 ans que le messager est parti de la terre, qu'il est retourné vers le Seigneur, et de nos jours, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui reste de lui? Une voix qui est enregistrée sur des bandes, on entend sa voix. Alors, il est dit qu'il n'y aurait plus de délai, plus de temps, quand le septième ange faudrait entendre sa voix. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il serait sur le point de sonner de sa trompette, c'est-à-dire de proclamer ce qu'il a à dire, le mystère de Dieu aussi se terminerait. Apocalypse 10, 5, 7. Alors ça a l'air de dire, bon, c'est pas le frère Branham puisqu'il est parti, puis c'est pas terminé. Il n'y aura plus de délai, la Bible nous dit, ça se terminerait. C'est dit, le mystère s'accomplirait, se terminerait aussi. Cela signifie qu'il n'y aurait plus du tout de mystère. Et qu'est-ce que c'est un mystère? Alors, voyons ce que la Bible dit au sujet des mystères. Dans le Nouveau Testament, ce mot exprime une action ou une dispensation de Dieu qui est tenue secrète jusqu'à une heure fixée. Ça, vous trouvez dans Romains 16, 25 à 26. Où jusqu'à ce que le Saint-Esprit ait préparé l'homme à en recevoir la communication. Vous trouvez ça dans Marc 4, 11. Un mystère ainsi révélé ne doit pas être tenu secret, mais au contraire, il doit être publié. Le mystère caché pendant des siècles est manifesté maintenant et porté à la connaissance de toutes les nations. Romains 16, 25, 26. Vous voyez? Ensuite, ce mystère dont Paul a eu connaissance n'a pas été manifesté dans d'autres générations comme il l'a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Éphésiens 3, 3, 5 et 9, Colossiens 1, 26, 27. Tout ce que je vous lis là, c'est les théologiens qui le disent, ce n'est pas moi qui l'invente. Nous sommes maintenant les dispensateurs, c'est-à-dire non seulement les administrateurs, mais les divulgateurs des mystères de Dieu. 1 Corinthiens 4, 1. Ça, c'est déjà Paul qui le disait en son temps, il y a 2000 ans. Il est le dispensateur des mystères de Dieu. Pourtant, le mystère contient un élément surnaturel qui dépasse l'homme en dépit de la révélation. Nous ne connaissons qu'en partie. 1 Corinthiens 13, 12. Ah, donc il reste des mystères. Il nous faudra l'éternité pour sonder les choses les plus profondes de Dieu. Ça, c'est certain. Paul est celui qui, par sa vocation même, Éphésiens 3, 3, 4 et 8, 9, fait le plus souvent usage du mot mystère, 22 fois dans le grec. Les principaux mystères sont, 1, le mystère du royaume des cieux. Vous voulez que je donne les références, hein? Vous pourrez ensuite arrêter le magnétophone, puis écouter. Matthieu 13, 3 à 50. Matthieu 13, 11 particulièrement. Le mystère du salut en Jésus-Christ. Romains 16, 25 à 26. Appelé aussi le mystère de la piété. 1 Timothée 3, 16. De la foi. 1 Timothée 3, 9. De l'évangile. Éphésiens 6, 19, 20. Beaucoup, hein? Le mystère de Dieu et de Christ en nous. L'espérance de la gloire. Colossiens 1, 26, 27, 2, 2, 3. 1 Corinthiens 2, 7. Apocalypse 10, 7. Le mystère de l'Église, corps de Christ, composé de juifs et de païens. Éphésiens 3, 6. Et épouse du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 5, 28 à 32. Ensuite, le mystère de l'enlèvement de l'Église. 1 Corinthiens 15, 51, 52. 1 Thessaloniciens 4, 14, 17. Le mystère des sept étoiles, Apocalypse 1, 20, qui contient les révélations transmises par Jean aux sept églises de l'Apocalypse. Septièmement, le mystère de l'endurcissement d'une partie d'Israël pendant l'ère de l'Église, Romains 11, 25. Huitièmement, le mystère de l'iniquité, 2 Thessaloniciens 2, 7, qui sera totalement dévoilé par l'apparition de l'Antichrist. Ensuite, le mystère de Babylone la prostituée, Apocalypse 17, 5, 7, c'est-à-dire de la fausse religion démasquée à la fin des temps. Voilà ce que les théologiens disent aujourd'hui et que vous trouvez, et ça j'ai trouvé sur Online Bible, c'est dans le dictionnaire biblique illustré d'Emmaüs en Suisse. Les théologiens protestants. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est pas... Parce qu'on pourrait dire, oui, Michel, qui es-tu pour venir nous parler de ces choses, c'est très important, ça te dépasse. Non, 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 non. C'est des choses qui sont courantes dans le milieu pastoral et que normalement les pasteurs devraient enseigner. De quel mystère parle Apocalypse 10? Il dit le mystère de Dieu. Là, on vient d'en voir 9. Le mystère de Dieu. C'est quoi? C'est la vraie Église, ce mystère de Dieu, car elle a été cachée en Christ par Dieu. Aux yeux de tout le monde, elle sera révélée à la toute fin. C'est-à-dire que la véritable Église, ben personne ne sait où elle est. Ni vous, ni moi. C'est ça le mystère de Dieu. Moi, je sais que je fais partie de cette Église, mais vous, vous n'êtes pas sûr que moi j'en fais partie. Je ne suis pas sûr que Branham en fait partie. Je peux être sûr de rien du tout. C'est le mystère de Dieu qui sera révélé à la toute fin. La foi, c'est chacun pour soi. D'accord ? Vous comprenez? C'est ça le mystère de Dieu. Tout le reste s'est révélé et s'est prêché depuis 2000 ans. Il ne faut pas venir nous raconter des histoires. Il n'y a pas de mystère mystérieux. Il n'y a plus. On est les dispensateurs justement des mystères de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Ce mystère, c'est la vraie Église, l'épouse qui doit être accomplie à la fin lorsque le septième ange fait sonner sa trompette au jour de la voix du septième ange. Au jour avec un X et un S, c'est-à-dire c'est des jours. Quand le prophète était sur la terre, il a fait entendre sa voix, ok, mais il ne l'a jamais fait autant entendre que depuis qu'il est parti. Quand il l'a fait entendre, c'était à Jeffersonville, à Tucson, à ceci, à cela, une fois devant 300 personnes, devant 2000 personnes. Mais maintenant, c'est tous les jours des milliers de personnes qui l'écoutent sur des bandes, sur des CD, etc., etc. On n'a jamais entendu autant la voix du septième ange qu'aujourd'hui. De nos jours, il ne reste plus que sa voix, lui il est parti, et on entend plus que jamais sa voix, et cette voix, elle a été multipliée à l'infini. Maintenant, on vous fait des prédications de 5 heures, il y en a 2 sur un CD, c'est fantastique. Pour le prix de rien du tout, en plus, ça ne coûte rien. Nous sommes plus que jamais au jour, dans les jours de la voix. Ce qu'il a dit, c'est important. Mais il n'a pas tout dit. On ne nous dit pas tout. Il n'a pas tout dit, le prophète William Branham. Et c'est là où les Branhamistes se trompent. En ouvrant le livre fermé par sept sceaux, des cachets, on peut dire aussi des sceaux, il nous a donné la possibilité spirituelle d'avoir accès à la connaissance des mystères, des mystères de tout ce qui est dans la Bible et de remettre en ordre toutes ces choses, de les rétablir en ordre. Mais il ne faut pas perdre de vue un principe absolument fondamental. Le Seigneur n'accepte pour disciples, comme disciples, que ceux qui désirent être victimes avec lui. Martyr, témoin, c'est le même mot. Martyr, témoin, c'est le même mot. Mais qui veut être martyr aujourd'hui? On va dans les réunions pour être béni, pour recevoir ceci, pour avoir de l'argent, pour avoir la guérison, pour avoir une consolation. Mais qui veut s'associer aux souffrances de Jésus-Christ? Il ne suffit pas de connaître la théorie biblique, les doctrines. Ce qu'il faut, c'est vivre le message que Jésus nous a donné. Et quand on vit le message qu'il nous a donné, on renonce premièrement à soi-même. Ensuite, on renonce à ses biens, on renonce à toute chose. Celui qui ne veut pas renoncer à sa vie ne peut pas me suivre. C'est ce que Jésus disait. Alors, on pense qu'il a rétabli toute chose parce qu'il a remis en ordre quelques doctrines. Autrement dit, ceux qui se trompent sont ceux qui ajoutent loi à loi, précepte à précepte, doctrine à doctrine. C'est l'Esprit Saint, mes frères et sœurs, qui rend vivant. C'est l'Esprit Saint qui donne le pouvoir de vouloir et de faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, ce n'est pas obéir à des lois, à des doctrines de loi, de machin. Faire la volonté de Dieu, c'est entrer consciemment dans sa propre prédestination. Les païens font la volonté de Dieu en rentrant dans leur prédestination. Est-ce que les chrétiens font la volonté de Dieu en rentrant consciemment dans leur prédestination? Faire la volonté de Dieu, c'est être conscient qu'on est à la place que Dieu veut. Dans la position que les Écritures désignent comme correcte, c'est ça, faire la volonté de Dieu. Et le faire, non pas par obéissance, mais par amour. Par amour pour Dieu, par amour pour les autres, et par amour pour soi-même aussi. Parce qu'il ne faut pas beaucoup s'aimer pour faire autre chose que ce que Jésus dit de faire. Maintenant, en vivant avec Jésus-Christ comme modèle, on ne doit pas avoir à la pensée seulement le côté glorieux. « Ah, toutes les choses que j'ai faites, vous pourrez faire de même et encore de plus grandes. » Alors, ils s'imaginent qu'ils vont aller faire des miracles, qu'ils vont aller ressusciter les morts, et que si, et que ça. Mais attends, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. On doit surtout être une victime, un sacrifice vivant. Voilà ce qu'on doit être. C'est là qu'on doit être comme lui. Une personne qui a renoncé à l'esprit du monde. Parce que beaucoup de... Alors, on nous dit, oh, faut renoncer au monde. Alors bon, renoncez à la chaise que vous avez, sur laquelle vous êtes assis, parce que c'est quelqu'un du monde qui l'a créé. Figez votre ordinateur à la poubelle, parce que c'est les gens du monde qui l'ont créé. C'est avec ça que vous écoutez Révélation Bible. N'employez plus l'électricité, ça vient du monde. Ne mangez plus de steak frites, c'est le monde aussi. C'est l'esprit du monde. Comment est-ce que vous utilisez les choses du monde? Dans quel esprit? Avec quel esprit? Une personne qui a renoncé à l'esprit du monde, c'est une personne qui a renoncé à la façon de gérer les choses de ce monde et à gérer sa vie d'église. Il a renoncé à gérer sa vie d'église comme le monde dit qu'il faut faire. Comment le monde dit qu'il faut faire pour gérer sa vie d'église? Deux ou trois fois par semaine, on va poser son derrière. On chante deux chants, une prière, un chant, la prédication, la collecte, une prière et on s'en va. Vie d'église. Le pasteur, il a un peu plus à faire, il a des visites, il a préparé le sermon. Mais ce n'est pas ça la vie d'église. Regardez dans les actes des apôtres, qu'est-ce que c'est? Et renoncer à l'esprit du monde. Mes frères et sœurs, nous sommes dans l'âge de Laodicée dont nous parle Apocalypse 3, 14, 22, c'est vrai, on est à la fin. Le septième ange a fait entendre sa voix et puis il est parti vers le Seigneur dans la patrie céleste, et sa voix continue à être entendue. Maintenant, il ne devrait plus y avoir de délai selon Apocalypse 10:6, mais le Seigneur veut encore témoigner sa grande faveur aux véritables disciples en accordant un délai. Mais Michel, qu'est-ce que tu nous dis? Un délai qui, selon Pierre, est la patience de Dieu et le salut de tous. On va lire 1 Pierre 3, 9 à 16, s'il vous plaît. 1 Pierre 3, 9 à 16. 1 Pierre 3, 9 à 16. Ne rendez pas... C'est bien ça? Non, c'est 2 Pierre. Excusez-moi. 2 Pierre 3, 9 à 16. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient. Oh, il est parti depuis 45 ans. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec ses œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puis, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes ou mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures d'ailleurs, pour leur propre ruine. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ah, mais Michel, mais ton prophète Branham, il est mort il y a 45 ans. Oui, c'est parce que Dieu vous aime qu'il a encore, bien qu'il avait dit il n'y aura plus de délai, il donne encore un temps. Il donne encore un temps. Ce délai est aussi annoncé dans 1 Thessaloniciens 4, 16. En effet, entre le septième ange, ou le signal donné, et la trompette de Dieu, eh bien la Bible nous dit qu'il y aura une voix d'archange qui doit se faire entendre. N'est-ce pas vrai? Cette voix d'archange, elle ne contredit pas ce que la Bible dit, mais elle fait briller au milieu des nations des pierres de révélation qui n'ont jamais brillé. J'étais toujours très embêté avec cette histoire de pierre quand tout à coup cet après-midi, alors que je priais et que je méditais, il m'est revenu que c'est sur cette pierre, c'est-à-dire la pierre de la révélation. C'est des révélations, des choses qui n'ont jamais brillé dans les nations. Et frère Branham a dit, regardez ces pierres sur lesquelles la lumière n'a jamais brillé dans les nations. Observez-les et personne ne le fait, ou presque personne ne le fait. Elles n'ont jamais brillé. Par la faute de qui? Par la faute des Nicolaïtes. Apocalypse 2, 6, qui existait déjà dans le premier âge, l'âge d'Éphèse, et qui voulait et qui dominait le peuple et qui le domine encore par toutes sortes d'organisations dirigées par le clergé, par des clergés, parce que maintenant il y en a plusieurs, et par leur faute, eh bien le peuple de Dieu n'a jamais eu accès à ces pierres de révélation, ni aux écrits d'Enoch, ni aux écrits des 12 patriarches, ni aux écrits de Thomas. Jamais. Ces écrits sont restés cachés par ces Nicolaïtes, par ces religieux qui aimaient le pouvoir et l'argent. Ils l'ont caché premièrement dans le temple à Jérusalem. Ensuite, ils les ont cachés dans les caves du Vatican. Ils les ont aussi cachés dans des jarres. Dans les grottes de la mer morte, ils les ont cachés à Nag Hammadi, et le Seigneur a permis que pendant notre génération, la génération où la connaissance augmente, ces choses soient dévoilées enfin. Et si quelqu'un cherchait à l'époque, et encore aujourd'hui, à les étudier, On les menace, les Nicolaïtes les menacent. Attention, c'est une hérésie. Attention, ce sont des apocryphes, c'est douteux. Non, ça n'est pas douteux. C'est apocryphe, oui, mais pas douteux. Apocryphe signifie tenu caché. Mais qui a tenu ces choses cachées? Des religieux Nicolaïtes. Oui, monsieur. Pour reprendre une parole du prophète. Même le prophète n'a pas vu ça en ouvrant les sept sceaux. Il les a ouverts du 17 au 24 mars 1963. Et savez-vous ce qu'il a dit? J'ai noté les principales choses qu'il a dites à ce sujet. Voilà ce qu'il a dit, c'est les paroles du prophète, les paroles de William Branham lui-même. Il dit, il y a un secret caché là-dessous, sous les sept sceaux. Je sais ce qui vient après cela. Donc il y a quelque chose qui vient après cela. Il dit, mais je ne sais pas comment l'interpréter. Je l'ai écrit lorsque ça m'est arrivé. J'ai écrit « Stop, ne va pas plus loin ». Voilà ce qu'il a écrit. « Stop, ne va pas plus loin ». Je ne peux pas l'interpréter car elle m'a été donnée dans une langue inconnue. Il est préférable que je m'arrête ici. Je sens que je suis empêché d'en dire plus long à ce sujet. Tout cela prend exactement sa place dans la parole. Qu'est-ce qui prend sa place ? Le mystère qui est caché dessous, ça prend sa place dans la parole. Parce que ça n'est pas encore dans la parole, mais ça prend sa place dans la parole. Dieu connaît mon cœur. Je peux dire que je n'ai jamais pensé une telle chose auparavant. Et voilà que ça arrive. Dieu a révélé, il continue, Dieu a révélé les six sceaux, mais il ne dit rien du tout du septième. Ce sceau du temps de la fin, lorsqu'il commencera, la Bible dit que ce sera un secret absolu avant de le connaître. C'est un mystère qui doit être révélé. Ce fameux mystère qui est révélé au jour de la voix. Et nous sommes au jour de la voix. Maintenant, c'est encore lui qui parle. Quel est le grand secret caché derrière ce sceau? Il dit, je l'ignore. Il répète, je l'ignore. Il dit, je ne le comprends pas. Il dit, je n'ai rien pu en dire. J'ai juste répété ce qui était dit. Mais je sais que cela se trouvait dans ces sept tonnerres qui grondèrent l'un après l'autre, tonnant à sept reprises. Et cela dévoila quelque chose que j'ai vu. Alors j'ai cherché l'interprétation de ces choses. Je n'ai pas pu la trouver, c'est l'exacte vérité. L'heure n'a pas encore sonné pour ces choses, mais nous nous en approchons. Nous en sommes tout près. Cette révélation des sept tonnerres, cela sera-t-il donné à quelqu'un ? Quelqu'un lui pose la question. Non, monsieur, il dit. Cela consisterait à ajouter ou à retrancher quelque chose à la parole. Vous voyez, il savait que c'est quelque chose, si c'était quelque chose qui est donné à quelqu'un, ça serait obligatoirement quelque chose qu'on rajouterait à la parole ou qu'on retrancherait de la parole. Mais il dit, mais tout est révélé ici. Et il a raison, tout est révélé dans la parole de Dieu. Et l'ouverture des sept sceaux montra ce que c'était. Il est toujours cette parole, comprenez-vous? Je répète, tout est révélé ici, donc dans la Bible, et l'ouverture des sept sceaux montre ce que c'était. Il est toujours cette parole, comprenez-vous? Vous ne pouvez sortir de cette parole. Ne comprenez-vous pas que, suivant ce que Dieu avait dit, la parole devait être voilée durant tous ces âges, mais qu'elle serait exposée au dernier jour? L'Église doit être remise en ordre dans les derniers jours, sans credo, sans dénomination non plus, mais seulement la parole vivante dans l'individu. Eh bien, mes frères et sœurs, même les branhamistes sont devenus une dénomination. Même les gens qui suivent ce prophète se sont organisés. Ils n'ont pas mis longtemps, hein. Tout ça, c'est dans sa biographie, de la page 445 à 452. J'ai fait un résumé, j'ai pris les points principaux, parce qu'ils se répètent, ils se répètent souvent. Je vous ai lu donc les passages les plus significatifs. Est-ce que vous avez compris? nous n'avons pas le droit d'ajouter ou de retrancher au livre de l'Apocalypse. Ça, avec son peu de théologie, il ne le savait pas. Il pensait, comme tout pentecôtiste, on n'a pas le droit de rajouter ou de retrancher à la Bible. Tous les pentecôtistes, tous les darbistes, tout le monde va vous dire ça. Mais c'est faux. Quand l'Apocalypse a été écrit, la Bible n'était pas encore formée. Les livres étaient dispersés à gauche, à droite, dans les diverses églises. Chacun avait un manuscrit de ceci, une copie de cela, mais il n'y avait pas de Bible. Donc quand l'Esprit a dit, il ne faut pas retrancher ni rajouter à la parole, ça ne veut pas dire à la Bible, mais ça veut dire à ce livre, au livre de l'Apocalypse. On n'a pas le droit de rajouter ou d'enlever quelque chose à ce livre. Par contre, il y a des gens qui ne sont pas gênés pour enlever les bonnes paroles de Dieu, ne pas les mettre dans le livre, dans la Bible, et il y en a qui ne sont pas gênés pour rajouter des cochonneries comme par exemple Tobie, Maccabée, et tous ces livres apocryphes qui ne tiennent pas la route. Dans la Bible de Jérusalem, je ne sais pas si vous avez vu, la Bible catholique officielle, il y a des livres qui sont faux. Enfin, ils sont faux dans le sens qu'ils ne sont pas inspirés, ils contredisent le reste de la parole de Dieu, voyez-vous ? La Bible, elle, telle qu'elle est de nos jours, n'est pas la parole de Dieu entière. Les Nicolaïtes ont tenu des textes cachés pour pouvoir dominer sur le peuple, pour pouvoir leur faire avaler toutes leurs couleuvres. Qu'est-ce qu'il dit Enoch, le septième depuis Adam ? Parce que Enoch, c'est le septième depuis Adam. Ça veut dire, ça fait de lui le premier prophète, le premier homme inspiré de la Bible. Enoch, le septième depuis Adam, c'est pas moi qui l'invente, c'est l'apôtre, c'est l'écrivain sacré Jude, dans le dernier livre de la Bible, juste avant l'Apocalypse, qu'il le dit. Il le cite comme prophète, il l'authentifie comme étant un de nos prophètes inspirés. Enoch, dans son premier chapitre, dans son livre, dans le premier chapitre, il dit « Ce n'est pas la génération présente que j'ai pensé, mais c'est pour une génération lointaine que je parle. » Nous sommes la génération la plus lointaine d'Enoch. Et c'est pendant notre génération que ce livre a été retrouvé dans les manuscrits de la Mer Morte, mes frères et sœurs, et authentifié grâce à cette découverte. Il s'adresse à des gens qui sont convaincus d'être des élus qui obtiendront la victoire au jour du jugement, et ce jour du jugement est appelé jour d'angoisse dans Sophonie 1, 14, 15. Et je voudrais vous lire ça pour que vous vous rendiez compte un petit peu. Voilà ce que Sophonie dit. Le grand jour de l'Éternel est proche. Le grand jour de l'Éternel, c'est le jour de la fin, le jour du jugement. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage, de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées, de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse, ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Rentrez en vous-même, examinez-vous. Nations sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous, cherchez l'Éternel, vous, tous les humbles du pays qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Vous voyez ? Eh bien, Enoch s'adresse à des gens qui se savent élus à cette époque-là. Et puis que dit Thomas ? Que dit Thomas dans son premier logion ? Logion, ça veut dire parole. L'évangile de Thomas, ce sont des paroles. Il n'y a pas d'histoire qui raconte comment Jésus est né, comment Jésus est mort, comment il est ressuscité. Ça ne raconte pas qu'il est allé dans telle ville. Et comme ça, c'est simplement Jésus a dit, Jésus a dit, Jésus a dit, Jésus a dit. C'est 114 paroles de Jésus. Les trois quarts de ces 114 paroles sont... trouvent leur pendant dans nos évangiles canoniques, dans nos quatre évangiles que nous avons dans la Bible, mais il y en a un tiers qu'on ne trouve pas dans nos Bibles et qui sont magnifiques, qui sont des véritables trésors, qui ne contredisent absolument pas la Bible. Que dit le premier de ces logions ? celui, donc c'est Jésus qui dit, celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. Mais ça ne contredit pas du tout ce que Jésus a dit, celui qui croira en moi ne mourra jamais. Amen. Et rien de ce qui est dans ces livres ne contredit la parole de Dieu, rien du tout. Je n'ai pas... C'est pas la même chose pour les livres apocryphes de l'Église catholique comme Tobie, Maccabée et compagnie. Là, c'est plein de contradictions. C'est dans ces livres-là que vous trouvez le purgatoire et toutes ces histoires. Mais nous, nous sommes sortis de Babylone. Nous sommes cachés avec Christ, par Dieu en Christ. Nous sommes cachés en Christ par Dieu. Et nous n'avons rien à faire avec ces différentes dénominations religieuses qui existent. Mais rien du tout. Nous ne sommes pas une dénomination religieuse, nous n'avons pas une dénomination, nous n'avons pas de nom. Le seul nom que nous portons, c'est le nom de notre époux, Jésus. Et nous l'attendons. Ce que j'ai à dire, ça ne les intéresse pas. Il y a un pasteur qui m'a dit ça l'autre jour. Oh, quand tu es venu chez nous, tu as prêché, les gens ont dit, oh, ce qu'il nous dit, ton blanc, ça ne nous intéresse pas. Bon, ben, rassurez-vous, ce que vous me dites, ça ne m'intéresse pas non plus. Je sais, je l'ai appris, ça fait 40 ans que je l'ai appris ça à l'école biblique. Tout ce que vous prêchez, là, ça ne m'intéresse pas. C'est de la vieille manne que je connais depuis 40 ans. Je leur apporte quelque chose de nouveau, ils n'en veulent pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au suivant. C'est pour ça, si je travaille encore avec ces dénominations, si je vais encore, ce n'est pas parce que ça m'amuse, c'est parce que je suis contraint par le Seigneur pour aller leur apporter ce qu'on a reçu. Et le Seigneur confirme en faisant des miracles. Il authentifie la parole que je prêche. C'est tout. C'est tout. Alors je pense qu'il y en aura certainement qui vont entendre que Jésus frappe à leur porte et puis ils sortiront de tout ça, et comme c'est écrit dans Apocalypse 3:20. Vous savez, qu'ils soient catholiques, protestants, baptistes, assemblés de Dieu, branhamistes ou autres, eh bien nous sommes sortis de tout ça. On ne veut rien de tout ça. Tout ça, c'est que tiédeur spirituelle. Tout ça, c'est que... Si ce n'est pas tiédeur spirituelle, vous savez ce que c'est? C'est attrape-nigaud. Attrape-nigaud. Il y en a beaucoup des nigauds. Hein. C'est ballot, hein, mais il y en a beaucoup. Alors, mes frères et sœurs, que Dieu nous aide à tenir ferme jusqu'au bout. Que Dieu nous aide à tenir ferme sur sa parole. Que Dieu nous aide à tenir ferme en Jésus-Christ. Que nous puissions faire ce que nous avons à faire jusqu'au bout avec fidélité. Que nous puissions être ce que nous sommes appelés à être jusqu'au bout avec fidélité et en pleine conscience jusqu'au bout. Que nous puissions agir sans faire de compromis avec ces religions apostates. Mais que nous puissions être des gens qui plaisent à notre Seigneur jusqu'au point qu'il nous épouse. Amen. Merci Seigneur de nous permettre de pouvoir participer à ce rétablissement de toutes choses. Seigneur Jésus, je te prie que ces choses que j'ai enseignées ce soir puissent être entendues un maximum et que cela puisse bénir ceux qui sont à la recherche de l'authenticité et non pas simplement à la recherche d'émotions ou alors de bénéfices quelconques en te prenant pour le pourvoyeur de toutes choses simplement, mais en oubliant que tu es le Dieu trois fois saint. Merci Seigneur de nous tenir à notre place et de nous rendre conscients de la place que nous avons à occuper et que nous puissions l'occuper avec humilité. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen.